Isabelle, parce que sans le savoir, je pense, tu as lu des textes qui vont finalement me servir d'introduction à ce que je vais dire aujourd'hui. Je ne le savais pas non plus, donc voilà, on fait dans l'improvisation, c'est pas grave. Pourquoi je dis ça? Je vais vous parler un peu de moi, hein, c'est pas très souvent que je vous parle de moi, mais tu as lu le psaume 19. Alors il se trouve que le psaume 19, c'était le psaume qui était choisi pour notre mariage. Voilà. Et entre autres, le dernier verset « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur au Seigneur » trône toujours quelque part dans notre chambre sous la forme d'un truc brodé que ma mère nous avait fait, je crois. Enfin voilà. Enfin, je crois qu'il est dans notre chambre encore. Vous savez, au fur et à mesure, on le voit plus, hein, mais bon. Voilà. Mais vous allez dire, et alors, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Exact. Donc, je continue. Et il se trouve qu'il y a quelque temps, on était en vacances, et certains m'ont fait remarquer que mon bronzage n'était sans doute pas de Vendeuvre-les-Nancy, effectivement, donc, parce que c'était notre anniversaire de mariage avec Huguette. 38 ans, hein, quelle affaire. Bon, merci, hein, on avait répété avant, c'est bon. Et voilà, donc il se trouve que nous sommes mariés le 24 juin. Et donc, la semaine dernière, on était effectivement en vacances pour cette occasion. Et je reçois régulièrement sur mon smartphone, là, tous les jours, un petit texte biblique. Et le 24 juin, j'ai reçu un petit texte avec un commentaire. Et c'est ce commentaire, voilà comment j'y arrive, vous me suivez toujours, c'est bon, qui a été à l'origine de la réflexion que je vais partager avec vous ce matin. Voilà. Pourquoi ça? Parce que le 24 juin, dans les calendriers, c'est la Saint-Jean, hein, Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Et il y avait un petit texte avec un petit commentaire de Saint-Augustin, alors si je retrouve mes papiers parce que c'est un peu le bazar, voilà, que je trouvais, qui m'a interpellé, voilà, tout simplement, parce que j'avais jamais réfléchi à ça, qui n'a pas une valeur extra-fala, mais c'est juste la petite réflexion qui a fait tilt dans ma tête. Et Saint-Augustin, c'est dans un de ses sermons qui est marqué 289, hein, donc je pense que... Il en a encore fait plus que moi, donc j'ai un peu de retard. Et il disait, nous fêtons la naissance de Jean-Baptiste, donc le 24 juin, quand les jours commencent à décroître, et par contre celle de Jésus quand les jours commencent à croître. C'est pour apprendre à l'homme à s'humilier que Jean-Baptiste est né le jour à partir duquel les jours commencent à décroître, pour nous montrer que c'est Dieu qui doit être exalté. Et à l'inverse, Jésus-Christ est né le jour où les jours commencent à croître, à Noël. Il y a ici un enseignement profondément mystérieux. Nous célébrons la nativité de Jean-Baptiste comme celle de Christ parce que c'est plein de mystères. De quel mystère? Eh bien, diminuons en nous-mêmes pour croître en Dieu. Humilions-nous dans notre bassesse pour être exaltés dans sa grandeur. Et j'ai trouvé que ce parallèle qui était fait entre ces deux, là il y a Saint-Jean d'été et Saint-Jean d'hiver, etc. Bon, ce calendrier qu'on ne respecte plus trop maintenant, et d'ailleurs c'est pas là-dessus que je voudrais insister bien sûr, mais cette idée qu'au travers de ce choix liturgique qui a été fait à un certain moment, il y avait cette idée que Jean-Baptiste, c'était au moment, hein, la période où les jours commencent à décroître, alors que Noël, c'est le moment où les jours commencent à croître et on va vers le printemps. Et voilà, ça m'a remis en tête un travail biblique que j'avais préparé il y a quelques mois, c'était au mois de février, dont le thème était centré sur celui à qui vous fait penser tout ce que je viens de dire, bien sûr, sur Jean-Baptiste. C'était dans le cadre d'un groupe qui s'appelle les entrepreneurs et dirigeants chrétiens auquel je participe, et le thème c'était sur Jean-Baptiste, dirigeant et dérangeant. Et donc j'ai fait un travail biblique sur ça pour animer une des soirées de ce groupe. Et je me suis dit que, bon, bien sûr c'était dans un cadre particulier, mais c'était intéressant aussi de poursuivre ce petit clin d'œil du calendrier que je viens de vous citer par ces réflexions un petit peu mises. Voilà, je vais lire beaucoup d'extraits de textes bibliques, donc n'essayez pas de me suivre dans vos Bibles parce que vous allez vous perdre. S'il y en a qui veulent après la liste des textes, évidemment, je la transmettrai, enfin, ils ne m'appartiennent pas. C'est simplement la manière dont je les ai un petit peu collationnés que je voudrais dire. Et comme disait Isabelle dans sa prière d'introduction, voilà, que chacun puisse, au travers de ces quelques mots que je vais dire, prendre ce qui le concerne. Tout n'est peut-être pas pour tout le monde. Il y en a qui vont se sentir interpellés par tel ou tel aspect de cette vie un peu hors du commun de Jean-Baptiste. et que le Seigneur puisse nous guider chacun à comprendre ce qu'il veut nous dire ce matin dans notre vie d'aujourd'hui. Alors Jean-Baptiste a été quelqu'un de dérangeant. Dérangeant d'abord sa naissance. Rappelons-nous l'histoire, là je vais citer quelques versets de l'évangile de Luc. Je vous donnerai mes notes, mais je vous invite aussi à relire tous les évangiles, si vous aurez quand même là plus de matière. Il y avait un sacrificateur qui s'appelait Zacharie, et sa femme était Élisabeth, mais il n'avait pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et là déjà, on est dans un contexte bien connu, dans l'Ancien Testament, on a beaucoup d'exemples de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et pour certaines d'entre elles, le Seigneur intervient de manière particulière et il va transformer ce qui est vécu comme une fragilité et il le transforme en autre chose. Pas toujours facile, penser à Sarah et Abraham, penser à Rachel, penser à Jacob avec ces difficultés au travers de ces questions-là. Anne aussi, la mère de Samuel, un peu plus tard, pour ceux qui connaissent ces histoires-là. Et alors ce sacrificateur, Zacharie, lui apparut un ange du Seigneur. C'était un moment où il était occupé dans un service sacerdotal. L'ange du Seigneur lui dit « Ta femme enfantera un fils, tu l'appelleras Jean ». Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc le Seigneur intervient et il dit quelque chose à Zacharie qui va le déranger, parce que je pense qu'il avait fait son deuil d'avoir un enfant, donc il va en avoir un, ça va être compliqué. Puis apparemment, on lui annonce déjà que ça va pas être un enfant facile. Il va être compliqué à gérer celui-là. Bon, d'accord. Et puis, donc, Zacharie, il est comme on aurait tous été, je pense. Il n'y croit pas. C'est pas possible, quoi. Il y a un truc qui n'est pas envisageable. Et donc, à cause de cela, l'ange lui dit, tu seras muet. Tu n'arriveras plus à t'exprimer pour n'avoir pas cru à mes paroles. Et si vous lisez la suite du récit dans Luc 1, effectivement, Zacharie sort du temple, là où il était en train d'accomplir son service, et il n'arrive plus à s'exprimer, il est muet, et donc il peut juste essayer de montrer qu'il lui arrivait un truc extraordinaire, mais il n'arrive plus à dire clairement ce qui s'est passé. Quelque temps après, le texte continue, sa femme devint enceinte, elle se cacha pendant 5 mois, en disant, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. On ne sait pas si elle se cache de joie pour garder son secret à elle, ou si elle se cache parce qu'il lui arrive un truc qui n'était vraiment pas normal ou pas possible. Dérangeant ce Jean-Baptiste. Le temps arriva où Élisabeth enfanta un fils, et tout le monde arrive, se réjouit, et dit, on va l'appeler Zacharie, parce qu'à l'époque, c'était un peu comme en Espagne aujourd'hui, moi, on a des copains... Lui s'appelle Francisco et son père s'appelait Francisco et son grand-père, etc. Et je ne sais pas jusqu'où il faut remonter, mais il n'y a que des Francisco. Voilà. Donc c'est un peu la même tradition. Et on va l'appeler Zacharie. Et non, Élisabeth, à qui son mari avait fini par faire comprendre ce que l'ange lui avait dit, non, on va l'appeler Jean. Mais alors pourquoi? Et à ce moment-là, la langue de Zacharie se délie et il dit effectivement Jean est son nom. Et tout le monde est étonné par cela. Voilà. Une entrée dans le monde qui est étonnante. Une entrée dans le monde qui ne correspond pas à des schémas classiques, qui nous rassurent, qui vont dans le bon sens. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Effectivement, il était annoncé qu'il ne serait pas facile à gérer, cet enfant, et c'est ce qu'on voit après. Là, dans l'évangile de Marc, Jean parut, c'est-à-dire qu'il a commencé à avoir une présence publique. Tout le pays se rendait auprès de lui. Il avait un vêtement de poils de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bon appétit. Hier, il y avait des choses plus sympathiques à manger, je crois, ici. Mais bon, l'image parfaite du prophète de l'Ancien Testament, quoi. Avec son bâton, machin, on l'imagine, les cheveux partout, tout ça, qui vocifère en interpellant les gens. Il n'y avait pas de micro à l'époque, donc forcément, il parlait fort. Quelqu'un qui vient pour déranger aussi les gens. Et pourquoi est-ce qu'il vient pour déranger? Parce que le Seigneur était en train de... Dieu était en train de préparer des choses, en train de préparer quelque chose. Et Jean a été choisi de manière étonnante, anormale, surprenante, parce que Dieu avait prévu de l'utiliser pour quelque chose que Jean sans doute n'entrevoyait qu'assez mal. Il était saisi de ces paroles qu'il avait à dire aux gens, repentez-vous, etc., le royaume de Dieu est proche. est-ce qu'il envisageait la suite? On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Et Jean-Baptiste est frappant par la radicalité de son message. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il voyait venir à lui, il baptisait dans le Jourdain, il voyait venir des pharisiens, des sadducéens. Alors, dans les évangiles, les pharisiens et les sadducéens, c'est les méchants quand même. Il ne faut pas oublier, c'était effectivement les sectes religieuses de l'époque qui avaient un système religieux très organisé, évidemment. Tout ce qui venait un peu bousculer cette organisation religieuse a provoqué des réactions désagréables. Mais Jean-Baptiste les ménage pas, race de vipères, il leur dit. Je ne sais pas quel serait l'équivalent comme injure aujourd'hui, on chercherait. Hein. Race de vipères, qui vous a appris? Qu'est-ce que vous venez faire là, en fait, il leur dit. Pourquoi venez-vous faire semblant de fuir la colère? Produisez donc du fruit digne de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père ». Eh oui, parce que ces braves gens religieux, et là je pense qu'il faut que... On se pose la question, si nous ne pouvons pas aussi avoir les mêmes fragilités, se sentir protégés par leur appartenance à tel ou tel groupe religieux, à faire partie, à exercer régulièrement un certain style de culte. Voilà, ils étaient bien, quoi, ils étaient bien dans la ligne. Mais Jean-Baptiste leur dit, attendez, c'est pas ça qui compte. Produisez du fruit digne de la repentance. Et voilà, je pense que chaque fois que je lis ces paroles, je me dis, attends, il faut que je les entende pour moi. Je pense être relativement régulier au culte, voilà, quand je ne suis pas en vacances, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Mais ce n'est pas ça qui compte pour le Seigneur. Et pour chacun d'entre nous, il faut vraiment qu'on sache ça. Autant c'est un plaisir d'être là, parce que c'est une occasion de le louer, de partager, de faire grandir cette famille spirituelle avec tous ceux qui sont là et tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est les raisons pour lesquelles nous sommes là. Dérangeant aussi par la radicalité de ses prises de position, non seulement il interpellait les gens, il leur demandait de changer de vie et de produire du fruit, mais il était même capable d'aller mettre le doigt où vraiment les choses n'allaient pas. Rappelez-vous, comme il a reproché à Hérode, qui était un peu le gouverneur de l'État, sa conduite, qui sur le plan moral était considérée comme anormale. Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, mais Hérode, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, ajouta encore celle d'enfermer Jean en prison. Parce que Jean était allé lui dire que, voilà, il vivait une vie, on va dire, de débauche, même si c'est mettre des guillemets à ça, mais voilà, en tout cas, il vivait une vie, et Jean lui disait, ce que tu fais n'est pas bien. Il avait beau être le gouverneur, voilà, tout en haut, Jean avait un message, et il y avait personne de passer à côté de cela. Quelqu'un qui était vraiment dérangeant, parce qu'il dérangeait à la fois l'establishment, il dérangeait les gens qui, effectivement, étaient dans une attitude ou un comportement qui ne correspondait pas à ce que Dieu voulait. Dérangeant, parce qu'il disait à ses interlocuteurs, ben, c'est pas seulement du visuel qui m'intéresse, ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a au fond de vous, et de quelle manière vous allez changer véritablement de vie. Et on sait comment cela a fini, puisque Jean qui disait à Hérode, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère, et finalement, au cours d'un banquet, vous lirez dans l'évangile de Marc ce récit, voilà, on demande à Hérode la tête de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste ayant promis, je ferai tout ce que tu voudras, ben, il ne peut faire autrement que d'aller faire trancher la tête à Jean-Baptiste, bon, c'était des rigolos à l'époque, c'est sûr, et on amène sur un plateau la tête de Jean-Baptiste, bon, voilà, c'est un peu gore, mais c'était quand même comme ça que ça s'est passé. Pourquoi cela? Parce que Jean-Baptiste était allé jusqu'au bout. Je pense que ça aussi, ça nous dit, alors, c'est plus trop des façons de faire qui sont courantes aujourd'hui, mais en attendant, sachons quand même que si nous allons au bout de la radicalité de notre message, c'est pas forcément de tout repos, et parfois il peut y avoir, peut-être pas la tête tranchée, mais c'est plus très courant, mais il peut y avoir des oppositions, des difficultés, et je pense que ça n'a pas empêché Jean-Baptiste de continuer à avoir le message qu'il croyait devoir donner aux gens à qui il s'adressait. Je pense que pour moi aussi, c'est un enseignement important. Suis-je capable d'aller au bout? Suis-je capable de continuer à être ce que je suis, sans forcément agresser les autres, hein, mais en étant clair. Et puis Jean-Baptiste, alors il était dérangeant, on l'a vu, hein, par tout un tas de côtés, dès la naissance, et puis dans toute sa vie, il a dérangé beaucoup de monde. Mais en même temps, il était dirigeant, au sens de celui qui donne une direction. Pas celui qui est le chef, mais dirigeant, hein, c'est celui qui dirige, qui indique le cap. Justement, à cause de ce message clair, c'est dans l'évangile de Luc, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur !» Et alors, les foules l'interrogent, « Que ferons-nous donc ?» Et il leur répond que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même. Et puis il venait aussi des péagers, hein, des collecteurs d'impôts, pour être baptisés. « Maître, que ferons-nous ?» Il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Et puis il y a des soldats qui venaient lui demander, « Et nous, que ferons-nous » Et il leur dit, « Ne faites violence à personne, ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. » Non seulement il avait un message tonitruant, dérangeant, bousculant, mais il avait aussi une réponse à chacun. Il était en capacité de... Là, il y a trois exemples de gens qui viennent le voir, mais on peut imaginer que c'est beaucoup plus large que ça. Ces trois exemples peut-être un peu significatifs. Voilà, les foules, donc c'est nous tous, on va dire, et l'indication qui est donnée par Jean-Baptiste, la direction qui est indiquée, c'est d'être capable de partager, d'être généreux, d'avoir de la considération pour l'autre, et donc si j'ai deux tuniques, j'en donne une autre, j'en donne une à mon prochain, si j'ai de quoi manger, je partage avec l'autre. Tous ces gestes de solidarité dont Jean-Haut nous a parlé il n'y a pas très longtemps dans une prédication, en disant « Toutes les fois que vous faites ça à l'un des plus petits, c'est à moi que vous le faites, dit Jésus. » C'était le commentaire de l'évangile de Matthieu. Et Jean-Baptiste allait dans ce même sens. Et puis les péagers qui étaient vécus comme vraiment des traîtres, des gens qu'on n'aimait pas parce qu'ils étaient collecteurs d'impôts. Alors, on n'aime pas trop les collecteurs d'impôts non plus. Mais en plus, eux, ils faisaient ça quand même pour l'occupant romain. Donc c'était encore pire, si j'ose dire. Il y en a qui sont là. Non, toute ressemblance avec... etc. Mais voilà. Non, mais les péagers, c'était... En plus, ils collectaient l'impôt pour l'occupant romain. On n'était pas du tout dans notre système aujourd'hui, bien évidemment. Et ce qu'il leur dit, il ne leur dit pas abandonner tout, il ne leur dit pas... c'est bon. Il ne leur dit pas d'arrêter de changer de métier, hein, c'est pas forcément ça. Non, il leur dit juste, mais n'exigez rien au-delà de ce qui était ordonné. Parce que dans ce milieu de la finance, est-ce que ça ne nous interpelle pas aujourd'hui, ça, dans notre époque? Il leur dit simplement, ne cédez pas à la corruption. C'est ça qu'il leur dit tout simplement, dans leur tâche, dans leur job, n'exigez pas au-delà, parce qu'on peut supposer qu'il y avait des arrangements qui se faisaient et qui étaient d'une honnêteté douteuse. C'est à la fois très simple et très puissant, transformation, capacité de transformation du monde dans lequel nous sommes. Et puis les soldats, alors évidemment les soldats, ça nous... J'ai été objecteur de conscience, hein. Ça se faisait quand j'étais jeune. Bon, voilà. Donc évidemment, j'ai pas un amour immodéré pour l'agent militaire, évidemment. Donc j'aurais tendance à dire à un soldat, abandonnez l'armée, faites autre chose. Hein. C'était plutôt ça qu'on disait il y a quelques décennies. Non, ils leur disent juste, n'allez pas au-delà aussi de ce qu'on vous demande. Ne faites violence à personne. Ne profitez pas de votre force, de vos armes, de votre position, de ce que vous êtes et de l'effet que vous faites sur les autres. Contentez-vous de votre sol, c'est-à-dire contentez-vous de faire ce qu'on vous demande et d'être dans votre position. Je trouve que c'est très fort parce que à la fois Jean-Baptiste avait ce message un peu, voilà, comme j'ai dit, tonitruant, repentez-vous, race de vipères, etc. Mais en même temps, c'est très concret, c'est chacun d'entre nous qui peut être touché par cela. Et non seulement Jean-Baptiste a eu cette attitude dérangeante, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il était vraiment celui qui indiquait aussi la voie et qui donnait des pistes pour pouvoir grandir, pour pouvoir construire et pour pouvoir préparer, en ce qui le concernait, l'arrivée de Jésus, bien sûr. En même temps, il avait une clairvoyance et il pouvait donner la direction parce qu'il discernait les vrais enjeux. Je vois ça quand, dans l'évangile de Matthieu, on lit que Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y oppose d'abord, parce qu'il a compris qui était Jésus, il a vu qui il était, il dit « Non, non, c'est moi qui devrais être baptisé par toi ». Jésus lui dit « Non, non, laisse faire maintenant, Et Jean accepte parce qu'il a compris ce qui était en train de se jouer là, cette espèce de passage de relais, si j'ose dire, entre Jean-Baptiste qui préparait le chemin du Seigneur, comme l'avait annoncé le prophète Esaïe, et puis celui qui allait véritablement apporter le changement radical dont nous bénéficions aujourd'hui. Et à ce moment-là, les cieux s'ouvrirent et une voix se fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et Jean-Baptiste, il avait aussi cette capacité de montrer la voie, de montrer qui était véritablement Jésus et celui en qui il fallait vraiment se confier. Un peu plus tard, quand vous avez vu, Jean a été mis en prison, Jean-Baptiste a été mis en prison par Hérode, et il a toujours des doutes un petit peu, parce qu'évidemment, ce qui lui arrive questionne quand même, pourquoi donc se retrouve-t-il en prison? Et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir? Devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus lui dit, « Mais allez, il fait porter le message, allez dire à Jean, voilà, les aveugles recouvrent la vue, et les boiteux marchent, etc. Montrez-lui qui je suis. » Et Jean avait cette capacité de discerner les véritables enjeux, ce qui fait que son message n'était pas n'orientait pas les projecteurs vers lui, mais il orientait les projecteurs vers celui qui venait après lui. Là aussi, c'est un enseignement, je pense, pour nous. Quand nous sommes dans une situation de témoignage, quelle qu'elle soit, par la parole, par les actions, par partage avec des gens, peu importe, quel que soit l'endroit et la manière dont ça se fait, soyons toujours attentifs, c'est-à-dire c'est les projecteurs, il faut vraiment toujours les mettre au bon endroit. Nous ne sommes que les véhicules, les porteurs de quelque chose, les porteurs d'une parole, mais ce qui est important, c'est celui sur lequel nous allons mettre le projecteur, celui qui véritablement transforme. Et puis finalement, il prépare la suite, il accepte de céder sa place tout au long de son message, sa période de public. Il prêchait, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Des expressions de son époque, vous pourrez trouver des équivalents dans la vie d'aujourd'hui. Et un peu plus loin, ou dans un autre texte, c'est dans l'évangile de Jean, bien sûr ce texte qui a amené la citation du message de saint Augustin que je citais tout à l'heure. Il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion en disant, voilà, lui il baptise, il ne comprenait pas trop pourquoi il y avait un premier rabbi qui s'est élevé, puis il y en a un deuxième qui arrive et apparemment ils ont un peu de mal. Et Jean répond, vous-même m'êtes témoin, je vous l'ai dit, je ne suis pas le Christ. J'ai été envoyé devant lui. Cette joie qui est la mienne est une joie complète. Ne croyez pas que ça me frustre en quoi que ce soit, dit-il. Il faut que qu'il croisse et que moi je diminue. Rappelons-nous le 24 juin et puis Noël, les jours qui augmentent et les jours qui diminuent. Voilà quel était Jean-Baptiste qui a dérangé beaucoup de monde. Et le message de l'Évangile, aujourd'hui encore, peut être un message dérangeant, dont nous pouvons être peut-être les porteurs dans telle ou telle circonstance, au travers d'actions concrètes, comme ça va être le cas dans le cadre de BTV, comme je disais hier, c'est bouge ta vie, c'est comme ça qu'il faut dire, peut-être qu'on nous en dira un mot tout à l'heure, ça peut être dans d'autres façons de faire, mais en même temps que nous sommes là effectivement pour déranger une société qui s'appuie sur des valeurs qui ne sont pas les valeurs, les bonnes valeurs, en même temps sachons être dirigeants, c'est-à-dire diriger les gens, les orienter véritablement, non pas juste vers le refus de ce qui existe. Si on regarde aujourd'hui notre société, il y a ceux qui s'accrochent à toutes des valeurs, l'argent, la puissance, la gloire, enfin, d'une certaine manière, on utilise des mots comme ça. Et puis il y a ceux qui rejettent tout ça, mais est-ce qu'ils proposent autre chose à la place? Est-ce qu'on nous oriente vers autre chose? Et c'est là que, je pense, les chrétiens ont vraiment un message à apporter de la même manière que Jean-Baptiste a pu porter cela. Jusqu'au bout, il a été fidèle à sa mission. Jusqu'au bout, il a été fidèle à son rôle de témoin de la parole de Dieu. Comme le dit le prologue de l'évangile de Jean, il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean-Baptiste. Il vint comme témoignage pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière, cette lumière véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage, pouvait dire Jean-Baptiste, que c'est lui le Fils de Dieu. Alors il est allé jusqu'au bout, et le bout c'est qu'il s'est fait couper la tête. Je ne souhaite pas évidemment de vivre cela, mais c'est simplement l'importance de se dire que ce n'est pas un message qu'on peut prendre un peu et puis délaisser. Non, ça engage toute une vie. Et voilà, je crois que c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Jean-Baptiste, c'était... Jésus dit à un moment, mais qu'êtes-vous allé voir un roseau? C'est une fumée qui s'évapore. Non, c'est quelqu'un d'extraordinairement important. Jésus le dit ça de Jean-Baptiste. C'était le plus grand des prophètes. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Encore une fois, Jean-Baptiste a fait ce passage entre ce qu'on appelle l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est-à-dire, il a été ce passeur qui a permis l'arrivée de Jésus et l'explosion du message de Jésus-Christ. Et nous sommes aussi parfois ces passeurs qui avons, par notre attitude, par nos paroles, par des gestes, par des partages, le rôle d'ouvrir une porte pour que les gens tout d'un coup se rendent compte que Jésus a la capacité de transformer nos vies. Alors il avait son caractère, semble-t-il, il avait ses idées, il les exprimait avec force, certains d'entre nous sont comme ça, d'autres sont plus discrets, mais en tout cas il a gardé une fidélité jusqu'au bout à celui en qui il avait reconnu le Fils de Dieu. Il n'agissait pas pour lui seul, mais cette parole, il faut qu'il croisse et que moi je diminue, qu'elle puisse être aussi quelque chose qui nous accompagne tous les jours. Dans notre vie ordinaire, si j'ose dire, et dans les moments de notre vie où nous sommes plus particulièrement en train de rendre témoignage à celui qui nous a sauvés en Jésus-Christ, que nous sachions aussi être à la fois porteurs d'un message fort, un message qui dérange, un message qui interpelle, mais en même temps le faire en sachant que ce n'est pas nous qui sommes importants, mais c'est celui qui... Que nous présentons et que nous voulons apporter. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Je vous invite juste à un moment de prière. Seigneur, merci parce que ta parole est riche, ta parole nous fourmille d'exemples de ces personnages qui, un jour, ont été saisis par ce que tu mettais dans leur cœur et qui ont eu vraiment le désir de le partager et de faire en sorte qu'ils puissent transformer d'autres vies. Alors, nous sommes chacun dans une situation, tu nous connais, tu sais quelles sont nos forces, nos faiblesses, tu sais à quel endroit nous vivons, nous travaillons, et nous te demandons de donner à chacun ce matin le petit clin d'œil en montrant, voilà, c'est là que j'ai besoin de toi, et c'est là que le message que j'ai mis en toi va pouvoir éclore et va pouvoir être entendu et reçu par d'autres. Merci Seigneur parce que tu nous utilises tous et parce que tu marches avec nous. Que vraiment nous puissions nous appuyer sur cette vérité et nous en réjouir. Amen.